Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
9h02 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, c'est la deuxième heure. Elle commence maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron. On remercie encore Alain Marchal et on lui souhaite surtout de vivre quelques jours bien plus au calme que tout au long de son année. Ouais, il est tendu. Écoute, on a une pensée pour les supporters niçois de vivre ces émotions-là sur la fin de saison. Et là, on va parler, ça tombe bien, de Raymond Domenech.
Tout à fait. C'est le grand thème que vous attendez aujourd'hui, c'est l'actualité. On va en parler dans un instant. À 19h30, nous reparlerons de la liste de Deschamps ce soir, la liste des joueurs retenus, sélectionnés pour aller disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aux États-Unis. Les infos RMC Sport, je vous les rappelle, Robert Hissière devrait être le troisième gardien, le gardien de but du RC Lens. Et Jean-Philippe Mateta, offensivement, devrait être retenu par Didier Deschamps à la place de Randal Kolo Muani qui était pressenti. On fera un débat, nous, autour de Lucas Chevalier. Louper cette Coupe du Monde, est-ce le coup de grâce pour Chevalier, 32-16, pour participer avec nous. Puis à 19h45, le quiz de Roten sans flamme, tous contre Roten, a gagné une platine vinyle de la marque française Muse. 32-16, touche 4, ou quiz par SMS au 7-32-16. Mais tout de suite, retour sur l'épisode le plus irréel de l'histoire du football français.
Moi, j'ai dit, mais comment vous avez pu laisser un article sortir? Comment un journal, il t'appelle à 3h du matin, tu sais que ça va faire la une? Le lendemain, c'est parce qu'il faut aller un bouc émissaire, les gars.
Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka.
Je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. C'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays.
Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous.
La Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe.
Il est très remonté, Robert Duverne. Il va s'en aller en jetant son chronomètre par terre.
On est sur le chrono, j'ai un moment de lucidité qui me fait enlever le chrono du tour du cou. Parce que si je le lance et que je l'ai encore au tour du cou, il me revient dans la gueule.
Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse.
L'adjoint ne peut pas répéter ce que j'ai dit, puisque déjà il l'a pas entendu. Et en plus de ça, la phrase dans l'équipe, elle n'a absolument rien à voir.
Quand tu es dans un groupe, tu sens le climat. Tu sens que quand tu passes, les joueurs se taisent. Et je sentais, je dis, il va se passer quelque chose.
L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui.
Alors, Raymond, documentaire qui fait beaucoup parler depuis hier, le bus, les Bleus en grève, diffusé sur Netflix, retour sur le fiasco de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. Les Bleus éliminés dès le premier tour en Afrique du Sud, la grève des joueurs lors d'un entraînement pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka. D'ailleurs, je vous précise que Nicolas Anelka avait donné sa version des faits dans Roten sans flamme en 2022. C'était une émission exceptionnelle avec Jérôme et avec Patrice Evra qui était là. Allez réécouter ce podcast, on l'a remis sur la chaîne Roten sans flamme aujourd'hui. Le documentaire, il est basé sur les témoignages de Patrice Evra, de William Gallas, de Bakary Sagna, mais surtout de Raymond Domenech, le sélectionneur qui a donné accès à son journal intime. Il se sent trahi et meurtri par le film, il l'a fait savoir sur un post sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On en parle avec Nicolas Pelletier qui nous rejoint. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Nico, c'est bien que tu sois là parce que tu vas nous remémorer cette folle journée du 20 juin 2010.
Oui, ce 20 juin 2010, au lendemain de l'apparition du journal L'Équipe et de la mise à l'écart de Nicolas Anelka, Téléfoot est en direct depuis l'hôtel des Bleus, Raymond Domenech en plateau, lorsque Franck Ribéry débarque en claquette chaussette pour présenter ses excuses aux supporters des Bleus après les mauvaises performances de l'équipe depuis le début du mondial. Il n'y a au passage une altercation avec Gourcuff. La journée débute donc dans le brouillard le plus complet et il va lui aussi évoquer une taupe dans le groupe France. Mais ce n'est que le début de cette journée terrible pour le foot français. Quelques heures plus tard, après une réunion entre les joueurs, le bus des Bleus débarque pour la traditionnelle séance d'entraînement, une des rares ouvertes au public depuis le début du mondial. Les joueurs vont saluer normalement les nombreux spectateurs. La séance d'entraînement est prête à démarrer, mais une image saute aux yeux des journalistes. Aucun joueur n'a pris ses crampons. Au même moment, une altercation éclate sur le terrain entre Robert Duverne et Patrice Evra, qui se finira par cette scène culte du lancer de chronomètre du préparateur physique. Les Bleus se regroupent autour du capitaine Patrice Evra, qui ira alors remettre une lettre au chef de presse de l'équipe de France. L'entraînement n'aura jamais lieu, c'est le début de la grève. Tous les joueurs remontent dans le bus, mais là, petit problème, le bus ne débarque pas.
Sont où les clés?
Je prends les clés pour pas qu'ils s'en aillent, parce que je reste persuadé que je vais encore les convaincre d'aller s'entraîner.
Personne bouge.
Le plan, c'est le plan. Là, ça fait quoi? 10, 15, 20 minutes que t'es dans le bus. C'est chaud, il y a de la tension, il y a de la buée sur les vitres.
J'aurais dû les laisser repartir tout de suite.
Quel con.
Peut-être. C'est peut-être mon erreur. Certainement même.
Derrière, c'est le chaos total. Les journalistes poursuivent Jean-Louis Valentin, directeur délégué de la Fédération, qui démissionne face caméra et en direct. Tout va très vite. Le chef de presse refuse de la lire, cette lettre des joueurs face caméra. C'est alors Raymond Domenech qui prend la décision d'aller lire le document, selon le récit du documentaire. Une scène que l'on connaît par cœur maintenant et qui est désormais l'emblème de la fameuse grève de Nice.
Merci Nico. Écoute, Raymond Domenech est-il le seul responsable du fiasco de Nice-Nas? C'est le thème du débat aujourd'hui. On a vraiment hâte de vous entendre, ouais. Jean-Michel, Jean-Pierre et Jérôme. Mais on a également hâte d'entendre un acteur majeur qui a participé au documentaire. C'est donc Robert Duverne qui est en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Salut Robert.
Salut Robert.
Salut Robert.
Salut tout le monde.
Salut Robert. Bon.
Toute l'équipe.
Bonjour Robert.
Robert, est-ce que le téléphone sonne beaucoup depuis hier et la diffusion de ce doc alors?
Moi, bon, j'ai quelques messages. Bon. Ça sonne pas beaucoup. J'ai même pas pu voir. Enfin, j'ai pas vu. Je connais les extraits, mes extraits. J'ai bien entendu vu Raymond ce qu'il a dit, la lettre qu'il a écrite suite au reportage. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je l'ai pas vu dans son intégralité.
Tu nous précisais d'ailleurs quand on t'a invité que si tu avais su à l'époque, quand tu as accepté de participer au documentaire, que Raymond avait livré son journal intime, tu aurais refusé d'y participer.
Bah, si j'avais su que ça allait être cette approche-là, alors moi j'avais des échanges avec Raymond, hein, bien entendu, et Raymond m'avait toujours dit qu'il aurait un droit de regard sur le reportage, et que le reportage, il a été fait, comme Raymond le précise dans son communiqué, en plusieurs fois, avec plusieurs directions. Et en fait, moi, je pensais que ça pouvait être intéressant de parler de ce cas d'école, de ce cas de management, de l'aborder comme un cas de management. Et qu'il n'y ait pas encore des nouvelles révélations, tout un truc, un bazar comme c'est le cas-là. Donc, j'étais pas du tout au courant que Raymond, qu'ils iraient chercher le journal intime, qu'ils le publieraient. D'ailleurs, Raymond a l'air d'exprimer le fait qu'il n'était pas du tout prévu. Ouais. Qu'il publie les mots qu'il y a dans son
parce qu'il y a des insultes envers des joueurs
bien sûr,
dans ces cas-là tu le montres pas
donc moi là-dessus là c'est pas moi qui l'ai montré donc je peux pas juger je ne sais pas dans quelles circonstances. Moi on m'a demandé si j'avais des choses consignées quelque part des textos de l'époque. À l'époque ils ont voulu revenir sur le site. On avait un site à l'époque, une espèce de page Facebook où les gens me contactaient à tour de bras pour. Mais moi, j'avais tout arrêté d'un coup, donc j'avais pas du tout de commentaires sur ce site-là. Mm-hmm. Bon, chacun a amené, donc Raymond a amené ce qui bon lui semble.
Juste Robert,
pour faire avancer, mais bon.
Robert, je vais donner la parole à Jérôme, Jean-Pierre et Jean-Michel. Juste, je veux ton avis à toi sur l'angle du débat. Est-ce que toi, 16 ans après, quand tu as vécu tout cela de l'intérieur, des gens te demanderont à qui tu en veux précisément dans cette histoire, est-ce que tu l'as enfin digéré, mais est-ce que d'après toi, Raymond Domenech est le seul responsable du fiasco de 2010?
Bah bien sûr que non. Raymond Domenech n'est pas le seul responsable du fiasco de 2010. Bien entendu que non.
C'est une responsabilité collective.
On est tous, bien sûr, je le dis, moi je le dis dans le reportage, j'estime que j'ai échoué aussi moi dans mon intervention. Je suis aussi responsable, j'ai échoué dans mon intervention qui est devenue une altercation. Mon intervention, elle était, faut prendre part à l'entraînement. Et on a vu le résultat, donc j'ai échoué aussi, on est plusieurs à avoir échoué, on est beaucoup.
Jérôme.
Tu essayais de reconstituer un vase qui était ça, pété en mille morceaux, Robert. Tu vas pas te flageller parce que tu as échoué là-dessus.
Mais
Robert, tu n'es responsable de rien, Robert.
Bien sûr.
Dis-le si tu es responsable de rien. D'abord, si, un journal intime. Voilà, oui, mais journal intime, par définition, il faut s'appeler Raymond Domenech.
Ah non, mais là, c'est un autre débat.
C'est le vrai débat. Pour donner un journal intime, et après.
Et puis dire, c'était pas prévu.
C'est comme si sur les réseaux sociaux, tu donnes le code de ta carte bancaire, idiot.
Non, mais,
Eh bien oui,
oui. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'avais pris, si on m'avait informé qu'il allait avoir un journal intime et qu'il allait avoir cet angle d'approche du reportage, je ne participe pas au reportage.
Je précise que tous les trois autour de la table, vous l'avez vu, alors, le documentaire. Oui. En tout cas, Jean-Michel, Jean-Pierre et Jérôme, vous l'avez vu.
Moi, j'ai. J'ai vu le reportage et puis j'ai vu de mes propres yeux ce que Raymond Domenech.
Tu l'as connu.
Robert aussi. On a fait quelques rassemblements ensemble. Mais c'est surtout Raymond Domenech que j'ai vu. Moi, je l'ai eu et je sais de quoi il est capable. Donc, bien sûr que pour répondre à ta question, Benoît, et au thème du jour, c'est le responsable numéro un.
C'est pas le seul. C'est le responsable numéro un.
Non, c'est pas le seul parce que tu peux rajouter François Manardeau qui est attaché de presse. Mm-hmm. Parce que quand tu vois là, je l'ai vu de mes propres yeux, ce qui s'était passé et l'impact que devait avoir un attaché de presse pour éviter certaines sorties et certaines accusations de la presse. En effet, c'est l'attaché de presse qui doit prendre ses responsabilités. Il ne les a pas prises, peut-être parce qu'il n'avait pas les compétences pour ça, mais c'est un rôle qui est hyper important, attaché de presse. Tu ne deviens pas attaché de presse comme ça par hasard. Non, mais... Donc ça, c'est la première chose. Mais le gros responsable, c'est Domenech. Pourquoi ? Parce que Domenech, en amont, quand il crée ce groupe de joueurs, tellement il a dit tout et son contraire à certains joueurs qu'il a créé déjà une ambiance qui est pas bonne.
Oui, ça partait déjà sur de mauvaises bases.
Et surtout un rapport de confiance avec ton sélectionneur qui a disparu de la part de beaucoup de joueurs importants et des joueurs leaders, parce que quand tu revois le groupe de joueurs, et je parle sous le contrôle de Robert parce qu'il a vécu, en effet, des joueurs leaders, il n'y en avait pas 50 000.
Et non.
Contrairement à d'autres sélections et d'autres rassemblements et d'autres générations, on en parlait des générations, il y avait dans les autres équipes des générations où il y avait du charisme, il y avait des leaders naturels dans le groupe. Là, en effet, ça manquait un petit peu, mais il y en avait. Et ces mecs-là, tu te les ai mis à dos déjà d'entrée avant la compétition. Donc, arrive après cette dingue avec Nico Anelka, d'accord ? Il est responsable de la suite parce que quand tu vois juste un truc, et moi je ne vais pas en parler sans 3 heures, ce que je veux dire, il y a juste à voir quand Pat Evra, mais je le savais parce qu'il nous l'a dit là avec Nico Anelka, quand Pat le cherche et qu'il lui donne son accord comme quoi Nico va s'excuser et qu'il faut qu'il se voit et qu'il fuit. Il fuit, il se cache et il se barre après à la conf de presse. C'est exactement l'homme qu'il est. Et moi, je l'ai vécu. Donc moi, il peut rien me dire là-dessus quand je parle, parce que il a une langue de. Bon, je vais pas donner le mot. Voilà.
Il l'a eu avec moi.
Voilà.
C'est tout. Dans ce documentaire, moi, je l'ai. C'est tout frais puisque je l'ai vu entre 15h et 16h15. Bon, c'est tout frais.
Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Jean-Michel ? Est-ce que c'est à charge contre Raymond Domenech, déjà ? Ou est-ce que tu trouves ça...
Non, mais il y a que lui. Il y a tout de machiavélique, d'abord, d'un orgueil. Ça pue l'orgueil.
Ah oui,
mais c'est puant d'orgueil. Oui. C'est d'une vulgarité. C'est un mec puant d'orgueil et vulgaire. Et quand il prétend, dans le communiqué, que c'est une décision de la Fédération française de football... Vous savez, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose qui n'est pas dans le documentaire. Robert, tu le sais mieux que moi. En plus, un menteur. Ah parce que celui qui a décidé de virer Anelka, c'est pas le pauvre Escalette qui savait pas où était l'avant et l'arrière d'un ballon de football. Celui qui a décidé, c'est Raymond Domenech. C'est lui et lui seul. Et quant à la fin, je vois Manardeau qui se glorifie d'avoir la lettre lue par, par Domenech et qui lui dit, parce qu'on sent quand même qu'ils sont, ils sont pas les meilleurs amis du monde, j'ai pas bien l'œil, je lui donnerai une photocopie et qu'il se glorifie d'avoir gardé cette lettre. Moi, j'ai été touché, Robert, par ton témoignage. Ouais. J'ai été touché par la sensibilité.
On voit tes larmes d'ailleurs, Robert.
Le petit Bakary Sagna. Parfois. Mais cette vulgarité. Vous savez ce que je ressens quand je vois ce truc? Je suis gêné. Je suis gêné qu'un gars ait pu rester aussi longtemps à la tête de l'équipe de France en étant aussi vulgaire, machiavélique. Et quand, à un moment donné, le dénommé Manardo dit on était dans l'anormalité, je lui confirme que ce ne sont pas des gens normaux. À ça, sur le plan neurologique et sur le plan... ce n'est pas des gens normaux. Mais tout va bien. Et quand il veut nous faire jouer sur la corde sensible et que c'est sa fille aînée qui lui dit « Mais papa, tu as fait une énorme bêtise en lisant cette lettre. Je pense que ce n'est pas très difficile d'être plus intelligent que Raymond Domenech et je pense... que sa fille, je ne sais pas quel âge elle avait, était quand même de toute façon plus intelligente. Ce n'est pas possible de voir ce que l'on a. Après, il y a des dommages collatéraux, il y a peut-être des choses qui auraient pu être rattrapées par les joueurs.
Ah,
certainement,
ça, c'est sûr.
Sûrement, Robert, certainement. Peut-être parfois, si tu t'y étais pris autrement, mais ne regrette rien. Mais
c'est pas une question de regret.
Vas-y,
je veux revenir sur le documentaire. En fait, moi, je pense qu'on va nous faire un bon documentaire qui allait avoir un sens. Un sens qui allait donner un sens, même si...
Ça peut pas, Robert.
Non, mais il peut. Parce qu'on pourrait charge, faire une analyse. Ouais, mais même si c'est à charge, peu importe. On pourrait faire une analyse pour le management, pour plein de choses, de ce qui s'est passé. Si l'orientation... Moi, je suis resté 4 à 5 heures à enregistrer. Ils ont 4 heures de propos, à peu près. Pour expliquer tout le déroulement. J'ai essayé d'avoir une vision, après coup, quelques années d'analyse, en fin de compte, d'analyse de cet échec. Alors, bien sûr que je me flagelle pas tous les jours avec ça, bien entendu, mais j'ai essayé d'avoir une vision de management, et c'est ce que je reproche, de ne pas être dans ce type de document, pour qu'aujourd'hui, on comprend comment ça peut foirer, comment un groupe peut foirer, comment un groupe peut arriver là, parce que le groupe en soi, quelque part, ils ont raison de soutenir leur joueur, parce que le joueur n'a jamais dit ses propos.
Bien sûr qu'il n'a jamais dit ses propos au vestiaire.
Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ils ont raison donc de le soutenir. Et le troisième truc, par contre, ils n'ont pas raison de faire une grève.
C'est ce que tu dis dans le doc d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu es énervé. C'est pas contre le mouvement de protestation des joueurs. C'est plutôt le fait qu'ils ne s'entraînent pas. C'est ça qui t'a rendu fou.
Il n'y a pas d'altercation avec Pat. Il n'a pas de propos désobligeant vis-à-vis de moi.
Non, sur les images, on peut interpréter, se dire ils sont à deux doigts de se battre, mais pas du tout en fait. Parce que c'est important de le préciser.
Non, mais ça c'est Tarago qui dit ça. Mais bon, Tarago, il s'est servi de ça.
Tu as préparé ta séance et tu es au service plein et entier de l'équipe de France et tu veux qu'ils s'entraînent. Mais je comprends que tu sois un petit peu désabusé. Voilà.
Encore aujourd'hui, je peux encore te dire le contenu qui était prévu à cette séance.
Ah bah tu vois, c'est encore frais dans ton esprit.
Non mais t'imagines que même dans le reportage, Robert et Jean-Michel et Jean-Pierre, et on va écouter Jean-Pierre dans un instant, on l'a pas entendu, mais Tarago qui sort cette phrase-là, il intervient et même pas avec un peu de recul, il se dit oui, j'ai fait une énorme connerie. Parce qu'en fait,
Tarago a l'info,
mais ce qui n'est pas la bonne info. Parce que là,
Tarago, il chope une info. Ils sont trois à choper une info. Voilà. Qui n'est pas la bonne.
Ah bah lui, t'en fais pas.
Qui balance cette info,
et c'est expliqué d'ailleurs.
En plus, t'en fais pas avec la baffe qu'il avait reçue de Nico quelques années avant. C'est sûr qu'il s'est bien chargé de mettre la bonne phrase. Oui, non, mais peu importe. Mais c'est des gens comme ça, Benoît. Je suis désolé. Et quand tu fais un reportage, tu peux juste avoir un peu plus de sympathie et reconnaître, parce que c'est la profession qui veut ça aussi, j'ai fait une connerie ce jour-là. En effet,
Il y a du montage, peut-être qu'il l'a dit et que ça a été coupé.
Je ne sais pas.
Accordons-lui le bénéfice du doute.
Bah écoute.
Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du doc, toi, alors?
Alors déjà, ça m'a rappelé des choses, mais j'avais oublié pas mal de choses, en fait. Moi, ce qui me choque, en fait, dans cette histoire, c'est que j'avais pas regardé l'aspect joueur comme je l'ai vu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai vu vraiment un capitaine avec ses joueurs principaux qui sont allés défendre un autre joueur. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt noble. Et ça, c'était génial. Par contre, moi, ce qui me choque encore plus, c'est que trois ou quatre fois, Raymond Domenech aurait pu arrêter la, en fait, l'amplification du, du phénomène.
Oui.
C'est-à-dire que.
C'est ça qui est le responsable numéro un.
Oui.
C'est cash.
Non, non, mais c'est, je suis d'accord. Je suis d'accord.
À aucun moment il a essayé d'arrondir les angles.
Il y a des moments terribles.
Parce que c'est un provocateur de paillettes.
Quand il empêche Evra d'aller s'excuser.
Par contre, à la fin où moi je reste sur ma faim, où je reste sur ma faim, c'est que, on ne sait toujours pas comment l'équipe a pu faire ce titre incroyable et débile sur un truc qui n'existait pas.
Ben oui.
C'est-à-dire, quelle est la mauvaise foi de qui a osé dire que c'était ce qui avait été dit ? Parce qu'après, tout découle de ça. Tout découle du titre, tout découle de ça. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a dit. Ou si ça a été dit, parce que peut-être ça n'a pas été dit, peut-être ça a été inventé aussi.
Ça n'a jamais été dit.
Ouais, tous les acteurs, donc ça a été inventé. Et les témoins disent que ça n'a pas été dit, en tout cas
donc
pas
ça
dit comme
inventé. Donc ça a été inventé. Exactement. Donc ça a été inventé. Mmh. Et là, c'est encore plus grave. Ouais, et à ce moment-là, moi, je défends les joueurs d'avoir soutenu Anelka.
Bah oui. Ce qui est clair dans le documentaire, c'est qu'effectivement, il y a eu des propos peu amène de Nico à Anelka, disant fais-là ton équipe de merde.
De merde.
C'est, oui. Ça, oui. Hein, c'est ça, voilà. Ouais. C'est bien ça, Robert, oui, à la mi-temps.
Mais... Oui, non, non, mais il y a une altercation, c'est tout con. Hein. Raymond lui demande de prendre la profondeur. En deuxième mi-temps, il lui dit de prendre la profondeur. Arrête de décrocher, prends la profondeur. Coach, c'est ce que je fais, mais les ballons, ils n'arrivent pas. Ça parle de jeu. Et au bout d'un moment, moi, il voit arriver que j'étais parti à l'échauffement aussi avec Dédé, Gignac, et il voit arriver peut-être pause. Que ça se touche les fils en haut et qu'il se dit, mince, il va rentrer Dédé, et il a qu'à changer. Bon, bah vas-y, si tu prends la profondeur. Et ça part comme ça c'est arrivé 10 000 fois, là, on était à juste, il balance le maillot.
Vois, c'est une information.
En plus, il lui reproche de le tutoyer sur le truc. Il reproche de le tutoyer.
Bah, tu te rends compte, il l'a tutoyé.
Oh, oui, c'est Domenech qui va. C'est grave, ça, c'est vachement grave, en fait.
Alors que lui, dans son journal intime est d'une vulgarité. Mais
alors, si je peux me permettre de faire un peu l'avocat de Raymond Domenech autour de ce plateau, parce que c'est vrai que moi je comprends votre colère légitime. On sait qu'il y a des antécédents entre Jérôme et Raymond, entre Jean-Michel et Raymond notamment.
Non, mais moi,
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi je comprends tout à fait les raisons de votre colère. Quand on voit le doc, on se dit mais c'est quelqu'un de machiavélique et qui a uniquement des défauts. Je veux pas du tout le dédouaner moi de sa responsabilité. Je veux juste dire, est-ce qu'il n'y a pas une conjonction de facteurs de se dire il y avait beaucoup de choses qui clochaient à cette époque en équipe de France, du président de la fédération au service de presse, en passant par le sélectionneur, et peut-être chez les joueurs.
Tout est foireux.
Il y avait moins de leaders qu'aujourd'hui.
On a bien dit que c'était le responsable numéro un.
Et c'est pour ça que
responsable.
Il y a toute une chaîne de responsabilité.
Qui sait qui gère.
Bien sûr, là on est d'accord.
De ces personnes-là.
On est d'accord. On est d'accord.
Pas le président de la fédé, parce qu'en effet, c'est pas le sélectionneur qui décide.
Souviens-toi dans quel état est Jean-Pierre Escalette au moment de la conf de Patrice Evra.
Qui décide du staff autour. Qui décide du staff autour.
C'est Raymond Domenech,
bon,
bien sûr.
Voilà, bon, écoute. Donc, tu t'entoures des gens que tu penses pouvoir maîtriser et tout ça. Je ne parle pas de Robert et du staff technique. Je parle des gens qui sont autour.
Il y avait François et Yann Le Guillard. Déjà, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas net parce que Yann Le Guillard était encore là.
Hein. Ben oui, en plus.
L'attaché de presse de l'époque de Raymond, son gars à lui. Était là. Donc on sentait qu'il y avait quand même...
Il y avait une défiance envers François Malardeau et Raymond Domenech.
Il y avait des choses qui étaient arrivées, bien sûr. Il y avait des choses qui étaient arrivées, des nouveautés qui étaient arrivées dans ce staff quand même. Mmh. Alors évidemment que...
Vas-y, pardon.
C'est pas pour dédouaner. Moi, ce qui m'embête, on en parle aujourd'hui, et je pose là peut-être la question à Jean-Michel ou aux autres, s'il n'y avait pas eu dans le doc... Moi, je veux revenir sur le doc, parce qu'on parle en fait surtout du doc.
C'est l'actu du jour, bien sûr.
S'il n'y avait pas eu ce problème... de ce journal intime. Je reconnais que c'est un gros problème, ce journal intime. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait ce jugement autour de Raymond et de ces révélations du journal intime qui n'auraient pas eu lieu et qu'on aurait pu avoir un autre angle? C'est ça que je veux dire.
Ouais,
c'est ça qui m'embête. Un petit peu de Raymond en disant... Est-ce que tout vient pas maintenant d'un très gros problème d'avoir révélé des choses qu'il a au profond de lui? D'accord, ça en fait pas quelque chose de bien. Je vais pas te dire aujourd'hui que c'est bien d'avoir ces propos.
De quelqu'un qui pense qu'il détient la vérité et que de toute façon, que tout ce qu'il fait est magnifique et que de temps en temps, il peut le mettre sur la place publique. Mais Robert, est-ce que quelqu'un de normalement constitué donne son journal intime à un réalisateur de documentaire et que
il a confiance en lui, ce que dit Raymond, ce que dit Raymond, parce que les premiers réalisateurs, c'est Jérôme Saporetto. Mmh. S'il a confiance en lui et que à partir de là,
je n'avais pas cette information. Alors là, c'est le bouquet là.
Jean-Michel, le documentaire, il est pas fait que sur le.
Le journal intime. Eh oui, il y a tous les autres faits et événements.
Parce que c'est quelques phrases en fait dans le documentaire. Alors, mais ce qui est grave, c'est ce que il se passe entre les joueurs et le coach.
Et si on peut préciser aussi,
déjà ça peut pas continuer.
Et d'ailleurs Jean-Pierre,
tu sais que c'est fini.
À RMC, on a beaucoup de connexions avec cette génération là, on a parlé à certains joueurs qui sont concernés dans ces histoires et qui peuvent être ciblés par des insultes. Les joueurs concernés n'en veulent pas forcément à Raymond pour les insultes parce qu'on se dit que dans un journal intime on a des propos un peu exacerbés et que c'est pas le fait de les avoir écrits, c'est le fait de les publier aussi aujourd'hui qui rend tout ça qui donne une dimension encore plus importante. Juste, j'ai une question pour Robert avant d'accueillir Mathieu. Robert, on a beaucoup parlé aussi des raisons qui ont poussé les intervenants à participer à ce doc. Raymond Domenech a précisé qu'il n'avait pas été payé pour ce doc. Est-ce que toi aussi tu nous le confirmes? Le producteur Stéphane Comga, qui sera dans l'after ce soir, a dit que personne n'avait été payé. Tu n'as pas été rémunéré non plus pour participer.
Je n'ai absolument pas été rémunéré pour très bien. Participer. On m'a payé mon billet d'avion de Biarritz à Paris, mais bon, voilà.
Alors accueillons Mathieu, tiens, au 32-16, qui va en débattre avec nous, Jérôme.
Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Oui, salut, bonsoir.
Bonsoir Mathieu. Toi le bienvenu.
Vas-y.
Moi, j'ai regardé le documentaire cet après-midi, ouais. Et ça m'a fait revivre ces sentiments de gâchis immense. Et tout à l'heure, j'ai entendu l'intervention de Jean-Pierre et j'ai eu un peu le même sentiment, c'est-à-dire que à plusieurs occasions, Raymond Domenech a eu vraiment l'opportunité de calmer le jeu. Et le moment le pire pour moi,
c'est d'arrêter, en fait.
Ouais, c'est quand il avoue que finalement, il a fait le choix en conscience de pas rectifier l'article et la une de l'équipe. Ouais. Et de dire que finalement ses paroles n'avaient pas été prononcées.
Ça, quand il dit à quoi ça sert, pourquoi je l'aurais fait, ouais, c'est ça exactement.
Ouais, ça j'ai trouvé que c'était un moment terrible. Alors après, bon, je suis pas fan de Domenech, c'est sûr. Je trouve que le documentaire, j'ai pas compris sa réaction après le documentaire parce que finalement les éléments les plus à charge sont des choses qu'il dit lui-même. Après, à sa décharge, je trouve courageux le fait qu'il ait partagé son journal intime. Et puis on peut voir qu'en termes de santé mentale, il ne devait pas être au top parce qu'il y a certains éléments qui indiquent clairement qu'il était complètement isolé, complètement stressé, complètement à l'ouest. Et on sent que il est un petit peu seul, hein, dans cette galère. Donc voilà, c'est peut-être l'élément qui peut venir équilibrer un peu le débat.
Merci Mathieu d'être venu au 32-16.
Merci
bonne Mathieu. Soirée à toi.
Bonne soirée Mathieu.
Merci. Robert, merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme. Et merci Robert, pour ton témoignage.
Voir, du coup, hein.
Oui, vas-y, dis-moi Jean-Michel, vas-y.
Allez. Benoît, juste pour se remettre dans une meilleure ambiance, il y a un autre documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle Magnifique. On les a tant aimés. Tu l'as vu? Ben voilà. Et qui remet les footballeurs
à un niveau. Je savais que tu allais parler de ça.
Ben Robert, oui, qu'est-ce que tu veux, on remet l'église.
On peut juste alors dire, si je me permets,
vas-y,
parce que j'ai envie de me permettre ça, j'ai envie de rendre un petit hommage à Floridinalo.
Évidemment, on pense à lui.
Voilà. Guy Lafleur.
Tout à fait. Voilà. Meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais qui nous a quittés.
Il y a des choses dans le football. Voilà.
Bien sûr, exactement.
Merci Robert. Bonne soirée, merci. À bientôt.
Salut Robert, à bientôt.
Bye bye. Et dans un instant, 19h30 sur RMC, on va revenir sur la liste qui nous attend dans 30 minutes. Didier Deschamps sur TF1 pour annoncer les joueurs qui seront retenus pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec Gilles Boulot.
On vous rappelle les infos RMC Sport, la liste qui devrait être annoncée et donc un des grands perdants de la soirée, Lucas Chevalier. On parlera donc du gardien du PSG. Est-ce que ce sera le coup de grâce pour Chevalier de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026? À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h33 sur RMC, on est là, on est bien, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme. Ça tombe bien, restez bien avec nous. On est avec Jean-Michel Larqué, avec Jean-Pierre Papin. On va parler de la liste de Didier Deschamps qui va tomber dans quelques minutes maintenant sur TF1. On la commentera demain dans Rotten sans flamme, c'est sûr. Mais là, on a encore des petites infos, des petites indiscrétions. on vous en a parlé au début avec Fabrice Hawkins et Arthur Perrault.
Ouais.
Le quiz de Louis Gerbier aussi
avec
dans 10 minutes.
Magnifique cadeau.
Ah ouais.
Une platine vinyle de la marque française Muse. Ça garantit l'authenticité d'écoute des disques vinyles et avec la fonction Bluetooth, vous pouvez l'écouter sur un casque, des écouteurs ou une enceinte. 3216 touche 4 ou quiz par SMS au 73216. Tout de suite, on y va. On parle donc de la liste de Deschamps dans la VAR de Rotten Sans Flamme.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
L'interrogation vient du poste de gardien de but. La question, c'est de savoir qui sera le troisième gardien. Lucas Chevalier ne joue pas, il est blessé. Bon, il va revenir dans les prochains jours et il devrait être opérationnel pour la finale de la Ligue des Champions, même si, a priori, il ne la jouera pas.
La VAR de Rotten Sans Flamme.
La saison très compliquée de Lucas Chevalier, qui a été recruté avec une grosse somme par le PSG donc l'été dernier. Il était destiné à être le successeur de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain et donc il devrait malheureusement terminer cette saison sur une non-convocation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec l'équipe de France. C'est Robin Rissière qui devrait être appelé ce soir. Fabrice Hawkins nous l'a dit il y a quelques minutes sur RMC dans Rotten sans flamme. Fabrice va revenir. Je vais juste repréciser la saison de Lucas Chevalier qui n'a plus disputé de match officiel depuis le 23 janvier, qui s'est blessé fin avril, qui est touché à la cuisse. Entre-temps, Safonov depuis 6 mois s'est affirmé comme le gardien numéro 1 du PSG. Deschamps aime Chevalier, il l'avait emmené lors de la tournée aux États-Unis au mois de mars et malheureusement pour lui, eh bien là, il devrait sauter de la liste de Deschamps. Fabrice Hawkins est de retour. Fabrice, on peut donc rappeler tes deux infos RMC Sport qui concernent la liste qui va tomber dans quelques minutes. Rissière devrait être appelé, tout comme Mateta offensivement.
Oui, effectivement, c'est les deux informations qu'on a données tout à l'heure. Robin Rissière qui devrait être appelé au poste de gardien de but, troisième gardien de but, donc derrière Mike Maignan et Brice Samba. Je mets le conditionnel, mais ce sera ça. Hein, ce sera bien Robin Rissière. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on en parle.
C'est sûr que Chevalier sera là, quoi qu'il arrive, c'est sûr.
Que Chevalier sera pas là,
ouais,
oui.
Il sera pas là, ouais.
Ouais, effectivement, parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il est blessé en plus actuellement, donc il n'a pas pu se montrer sur ses derniers matchs. Où Luis Enrique aurait pu lui donner quelques minutes. Donc c'est une grosse déception, j'imagine, pour Lucas Chevalier. Alphonse Areola aurait pu être appelé, lui aussi. Il était dans les petits papiers du sélectionneur pour cette troisième place, mais c'est Robin Rissière qui sera choisi. Et puis la deuxième information, c'est que Randal Kolo Muani ne participera pas à la Coupe du Monde. Il était attendu dans cette liste lui aussi, pas forcément par rapport à ses récentes performances, notamment en Première Ligue où il n'a pas beaucoup marqué, mais il avait un vécu et des statistiques en équipe de France qui lui permettaient de pouvoir espérer. Et le staff se penche vers la solution et vers le profil de Jean-Philippe Mateta. Et j'ajoute à cela qu'il faudra quand même regarder la liste du sélectionneur qui va tomber aux alentours de 20h20, qu'on va annoncer évidemment ici sur RMC, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite surprise.
Oula, si Fabrice dit ça, c'est qu'il faut vraiment surveiller, quoi. On va regarder ça.
On va surveiller
avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, il y aura un Génération After spécial liste de Deschamps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, RMC Radio Officielle. On voulait faire le débat sur Chevalier, Jérôme, Jean-Michel et Jean-Pierre. Cette année terrible pour lui. Est-ce que c'est le coup de grâce de louper la Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Forcément, une sacrée déception qu'il va devoir digérer. Hein.
Non, mais moi, j'ai une pensée pour lui. Alors, on a été très critique au début parce que les critiques elles font partie du jeu quand t'es pas au niveau et qu'on est déçu de son adaptation, on l'a dit, mais c'était pas contre lui. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs, que ça soit sur le terrain mais aussi dans sa vie privée, mais ça peu importe, ça le regarde. On passe de ses performances sur le terrain. Je pense que ça a été très dur les premiers pas au Paris Saint-Germain, l'adaptation à ce club là rien à voir avec Lille. Et oui, alors moi je lui laisse encore une chance, si tu veux, parce que je reste persuadé que ses qualités, il les a pas oubliées et qu'il peut continuer une progression et retrouver du temps de jeu et surtout des performances.
Il devra se relancer ou tu le vois rester au PSG la saison prochaine?
Écoute, c'est compliqué parce que on parlait de ça avec les performances de Safonov. Le problème, c'est que Safonov, on l'a encore vu hier. Franchement, c'est Jésus dans les buts en ce moment. Il s'est donné de la confiance aussi avec des très bons matchs. Et puis surtout, le PSG est en passe peut-être de devenir encore une deuxième fois de suite champion d'Europe avec Safonov dans les buts. Donc c'est compliqué l'année prochaine pour la concurrence de nous expliquer que l'année prochaine, tu redistribues les cartes et la concurrence va jouer alors que t'as un gardien qui t'a permis d'être champion d'Europe. Donc ça va être compliqué pour Chevalier. Peut-être à lui de réfléchir. Mais bon, le poste des gardiens, c'est compliqué de trouver un point de chute avec une indemnité de transfert qui sera élevée parce qu'il n'a pas été gratuit.
Il est sous contrat jusqu'en 2030.
Exactement. Et puis juste pour reparler de sa sélection. T'imagines quand même, moi j'ai une pensée pour lui. Il se blesse au pire des moments, ouais, parce que Didier Deschamps lui faisait confiance. Moi, je trouvais que la confiance, c'était une confiance aveugle, parce que quand t'as un mec qui joue plus du tout, plus une minute de jeu, il ne mérite pas d'être en sélection, même au poste de numéro 3.
Il mais aurait dû jouer, parce que Renato Marin a joué, en parce plus, que donc, Safonov a été préparé.
Ça lui aurait permis peut-être de confirmer le fait que Deschamps le prenne en troisième gardien. Il se blesse, ouais, et là, en effet, bah, c'est un choix logique, il sera pas dans les trois. Mais mentalement, il va falloir qu'il se remettre. Hein. Ouais. Alors, imagine le pire pour lui, c'est que l'équipe de France, elle gagne cette troisième étoile. Parce que c'est totalement possible.
Et que le Paris Saint-Germain soit champion
en plus,
d'Europe.
Non, mais t'imagines comment il faut se remettre de ça. Bah, je sais pas ce que vous en pensez.
Sans toi, oui, sans toi. Sans toi.
Jean-Michel, est-ce que ce serait le coup de grâce pour Chevalier donc, de louper cette Coupe du Monde?
Chez les aficionados de la corrida, on appelle ça le coup de Descabello. Eh oui. Évidemment que pour lui, comme les choses vont vite quand même dans le football.
On le savait.
Oui, on le savait, mais quand tu en es la victime, parce que c'est une victime, tu te rends compte que tu es transféré de Lille à Paris Saint-Germain avec tambour, trompette, 50 millions d'indemnités, et puis tu échappes 2-3 ballons, tu te retrouves en concurrence, tu te blesses et tout s'écroule. Et tout s'écroule. Alors, évidemment, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain peut transférer ce joueur-là. Ils ne trouveront jamais personne à ce tarif-là. Donc, moi, je pense qu'il faut très vite qu'il soit prêté à un club et qu'il essaie de se relancer dans un club. Ça, c'est la. Je pense que c'est la seule option raisonnable dans la situation dans laquelle il se trouve. Et il est évident que Didier Deschamps, même s'il a été très paternaliste avec Lucas Chevalier pour les deux matchs qui ont eu lieu sur l'autre continent, le continent américain, il est évident qu'il ne peut pas, le soutenir davantage. Il faut qu'il prenne quelqu'un qui. Et puis, j'imagine que en confiance, Lucas Chevalier, il n'est pas en confiance. Enfin, tu peux pas imaginer qu'à un moment ou un autre, il entre dans les buts de l'équipe de France pour un match de Coupe du Monde. Il doit trembler de tout. Voilà, il doit trembler de tous ses os, le pauvre, actuellement.
Jean-Pierre.
Bah, ça, c'est certain. Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Hein. Je pense qu'un joueur, déjà, qui joue pas dans son club, avec toutes les péripéties qu'il a eues, il a été blessé. Safonov l'a remplacé parce que il a été meilleur que lui. Aujourd'hui, ne pas aller à la Coupe du Monde, de voir le PSG gagner la Ligue des Champions, tu vas prendre un coup sur la casquette qui va faire très très mal. Après, ça s'appelle la résilience, où on est capable de surmonter tout ça, ou on n'est pas capable et il faut très vite qu'il cherche un autre challenge, parce qu'autrement, ça va être un calvaire.
Pour toi, il doit donc relancer sa carrière ailleurs l'été prochain.
Oui, je pense.
Parce que pour vous, la place de numéro 1 est définitivement perdue.
Non, mais
c'est jamais perdu parce que. Ouais, c'est jamais perdu parce que, quoi qu'il arrive, Safonov a déjà été blessé aussi, mais tu peux pas faire une carrière en espérant que numéro 1 va se blesser. Autrement, tu joues pas dans une équipe, quoi, je veux dire. Si tu penses qu'à
non,
ta
mais
gueule
t'as un entraîneur qui a pas peur de changer ses gardiens quand il sent qu'il y en a un qui est plus
performant.
Mais
il l'a fait.
C'est ça le truc. Pourquoi pas insister au PSG?
Il l'a tellement bien fait qu'aujourd'hui, il est dehors, quoi.
Bah oui, bien sûr.
En fait, voilà, c'est ça.
Bon, en tout cas, on rappelle l'info RMC Sport. Pour l'instant, Robin Richard devrait être appelé en troisième gardien. Jean-Philippe Mateta, offensivement, et Fabrice vous dit de bien surveiller la liste qui sera donnée à 20h20 par le sélectionneur Didier Deschamps.
Oui, parce que
une info qui peut tomber.
Peut-être Fabrice. Maxence Lacroix pourrait faire partie de
défenseur
de ce
Maxence Lacroix.
Exactement. Maxence Lacroix.
Il était bon
Crystal Palace. À la place de qui, c'est la grande question. Il y a deux solutions.
Bah, c'est Hernandez alors.
Pas certain. Il peut aussi ne pas prendre un milieu de terrain, donc partir avec 5 milieux de terrain et prendre 9 défenseurs. C'est une des possibilités. Ou alors, à la place d'un défenseur, comme tu le dis, Jérôme. Il y a deux possibilités et c'est aussi pour ça qu'il faut regarder de près.
On a besoin d'avoir autant de défenseurs.
Alors,
avec,
c'est une supposition, mais sinon, tu peux considérer Warren Zaïre-Emery comme un latéral droit potentiel et peut-être sortir un milieu de terrain et avoir Warren dans un rôle un peu hybride des deux postes. Ça peut être des possibilités.
Ah oui, c'est ouvert. Dans ces cas-là, tu prendrais pas Malo Gusto.
Peut-être. Enfin, après, ça, c'est pas ce que Fabrice dit. Ça, c'est une supposition. L'info de Fabrice, c'est que Maxence Lacroix remonte dans les cotes et pourrait se retrouver dans la liste des joueurs appelés.
Bah, s'il nous en parle, c'est un coquin.
Ah, mais il est
c'est
bon, Fabrice. Coquin, il vient quand il a des bonnes infos, bien sûr. Fabrice, il a sorti Maté tard, il sert. Et là, Lacroix, donc bah, plus confiance.
Tu te rends compte, c'est un faucon, il voit tout. Et il passe de la tour TF1 au studio d'RMC, il repart à la tour
Fabrice,
TF1.
Fabrice, c'est le meilleur. Il vous donne une info, c'est béton. Donc, je fais plus confiance.
Vol, Fab, allez, vas-y.
Surtout, reste dans ce studio, Fabrice. Dès que tu as une info, on la veut.
On te renvoie.
Et ce soir, dès 20h, Génération After spécial liste de Deschamps pour la Coupe du Monde. Dans un instant, le quiz de Roten sans flamme. Ah. Tous contre Roten. La team Papin, Larqué.
Il est reparti, le faucon.
Ah, non, il est là. Ah ouais. Face à Jérôme. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme avec le quiz de Louis Gerbier avec un super cadeau à vous faire gagner. Jean-Michel Larqué, Jean-Pierre Papin vous laissent enfuir, mais non, s'ils font pas le quiz, ils seront pas payés. Donc ils sont restés faire le quiz. Ah, il faut faire le nombre, mais vous inquiétez pas, il y a deux auditeurs qui
arrivent. Oh, tu mérites d'être puni, toi, quand même.
Et dans un quart d'heure, Génération After spécial liste de Deschamps, les infos RMC Sport arrêtent pas de tomber grâce à Fabrice Hawkins, bah, pim pam poum, Robin Risser, Jean-Philippe Mateta, une chance pour Maxence Lacroix, le défenseur central de Crystal Palace. Restez bien connectés parce que c'est sur RMC que ça se passe et qu'il y a toutes les bonnes infos.
Mais ensuite, pour Gendouzi,
on y croit moins. Tout de suite, c'est le quiz.
RMC. Tous contre Roten.
Avec Louis Gerbier qui est là. Salut Louis.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Ça va ?
On va s'affronter ce soir pour remporter une platine vinyle de la marque française Muse. Grégory et Sylvain, bonsoir à vous deux.
Salut. Bonsoir messieurs.
Et Sylvain, tu es supporter de l'OM. Est-ce que tu veux jouer avec le ballon d'or Jean-Pierre Papin ?
Bien sûr.
Allez, Sylvain avec le reste du monde.
Très bon choix. Très bon choix.
Bah, ça, c'est ce qu'on verra.
Allez Jérôme.
Allez, t'en fais pas.
Allez, on y est. C'est ce soir. C'est le grand
sur
cours.
La liste.
Ah ouais. Eh oui, ce soir il y a
c'est le thème.
C'est le thème.
Un quiz liste.
Non, excellent. J'ai fait la mienne.
Ouais, on s'en cague.
Le thème, évidemment, les listes des Bleus en Coupe du Monde. Chimonda. Attention, hein. Coupe du Monde.
Ouais,
et
je suis sûr qu'il y est.
Et alors, Jean-Michel,
il rigole déjà. Rien que son rictus déjà. Tu l'as.
Chimonda. Ok. Bah vous verrez bien.
Celle-là, il va pas la faire.
Non, je ne changerai rien. Allez, on est là. Question flash.
Allez, question flash.
Ça va, Jérôme ?
Oui.
Dans le doc Netflix sur Naïsna,
Sania,
qui est cité à la fin comme la possible taupe ?
Ribéry.
Ribéry. Réponse. Bonne réponse.
1-0 pour Grégory et Jérôme.
Je suis chaud, fais attention, Jérôme.
Ah ouais, vous l'avez vu. Hein.
Question Larqué.
Francisca, code de qui n'en veut pour les jeunes. Qui n'en veut ?
Gerbier, t'es un truand. La conférence de presse en 2010 a eu une bonne ambiance des chiens un peu.
Ah ouais,
un peu les des chiens par la table. Quel joueur présent dans la liste de 2002 jouait à l'époque au FC Barcelone ? Seul joueur de la liste.
Petit.
Non.
Ah non.
Dugarry.
Juli. Cristobal.
Oui.
Juli.
Cristobal. Bien joué Jean-Michel, c'est ça.
Ah bravo.
Là, je me repose. Là, je me repose jusqu'à la fin de la semaine.
Incroyable. Je me
repose. Pour une seule bonne réponse, les.
Ouais, les... C'est cher payé.
Ouais, c'est... Ah, bah, oui. Question JPP. Quel ancien Jérôme, coéquipier alors. De Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG ?
Tu peux répondre ou pas ?
Oui.
Jérôme Pancrate.
Ouais.
Bien joué, JPP.
Alors, on l'embrasse, Fabrice.
Je vais faire
Jérôme, du coup.
Oui, Jérôme, on l'embrasse.
Je vais faire comme Jean-Michel, j'ai posé deux questions, je vais partir en week-end.
Ah bah allez, non, mais... Écoute,
allez. Toujours dans la liste de 2002, quel joueur joue à Bolton ?
Attention, Jérôme Anelka.
Non.
Jérôme Anelka, Jérôme.
Mais un joueur de Bolton,
ouais.
2002
Jérôme Djorkaeff.
Oui, oh là là, joli, il est fort.
2-1 pour le reste du monde. Ah oui, Djorkaeff.
Attention là, pour les mélomanes, question flash.
Mélomane.
Quel est le titre de sa chanson sortie en 2000 ?
À Djorkaeff. Ah oui, c'est vrai. Oh,
c'était pas.
C'est top d'ailleurs.
C'est pas fini. C'est pas top quand dans.
Arménie.
Vivre dans ta lumière.
Oui.
Oh, tu me le sors de où ça ? C'est à quoi sérieux là ?
Non, mais d'où tu sors ça ? Oh non, non. Là, il y a quelqu'un qui.
J'adore la chanson française.
C'est un grand tube.
Vivre dans la
ça.
Alors, entre vivre dans la lumière et tape dans un ballon, je peux te dire que là, on est servi.
Et qui c'est les plus forts, c'est les verts.
Ouais, et qui c'est. Ouais,
il est. Vivre dans la lumière.
Comment il sait ça?
Et puis,
mais quel tricheur, mais non, quel tricheur.
Mais arrête.
Et puis, non, là, non, pas du tout.
Mais là, il n'y a pas eu de triche.
Mais attends, Benoît, quoi, c'est pas toi que j'ai dit que tu triches.
Non, mais là, je te promets qu'il n'a pas triché. La personne ne le sait, aurait dit, il n'y a que des jeunes.
J'avais acheté le disque à l'époque, ouais. Et c'était le single.
Deux ans et demi.
Là, quand il rigole comme ça, quand tu retournais le disque, il y avait Je te survivrai de.
Ah, Patrick, c'est qui déjà?
Bah, d'une légende des Verts.
Ah, bah oui.
Eh ben ouais, c'était.
François.
Ramatuel.
François.
François.
Non, oui. Comment il s'appelait? François. Mais François, non, pas François. Valérie, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, on s'en fout.
Jean-Pierre François.
Tu te rends compte si tu poses une question à un supporter italien qui est dans quelques années? Qui est cette plus forte?
Qu'est-ce que t'es plus
de deux,
l'accent italien de Coach Courbis.
Ah oui, attention, faut donner les deux réponses pour avoir le point.
Oula.
2002, toujours.
Oh.
Qui sont les deux bleus de la liste jouant à Parme?
Qu'est-ce qui était plus forte, Bogossian et Thuram?
Bogossian et...
Presque bon, presque faux. Bogossian.
Bogossian et Miku.
Et Miku, bonne réponse. À ce moment-là.
Moi, j'avais décidé de me. Non, mais c'était juste pour. Juste. Attends, c'est bon là. C'est
allez,
bien.
Allez,
3-2 pour voilà, la fin du
quel week-end je vais passer.
Bah, prends des vacances même à ce niveau-là.
Allez.
Bah, ça, je suis en vacances.
Question auditeur, Grégory et Stéphane, je crois, j'ai oublié.
C'est Grégory et Sylvain.
Et oh, Sylvain, là, excusez-moi, oui. Sylvain, excuse-moi.
Et Sylvain, il a un petit truc en plus, lui, je suis sûr.
Excellent. Quel joueur surprise de la liste de 2018 remplace N'Golo Kanté à la mi-temps de la finale?
Ah oui.
Un grand. AS Rome, Stade Rennais.
Oui.
Ah ouais.
Thuram?
Non, dur à trouver. Prénom, Steven?
Ah, Steven.
Ah, c'est dur.
Steven, français qui s'appelle Steven?
Oui. Bah, il y a bien Steven, tu vois.
Ah oui, je vois.
Steven Mandanda.
Non.
C'est
toujours pas Shimonda.
Il a joué à Séville après.
Il a joué à la Roma.
Ouais, exact, à la Roma, à Blackburn.
En Iran après, je crois.
Bon, bah, on annule, hein.
Amiens, il vient d'Amiens.
C'est vrai.
Steven Nzonzi,
champion du monde. Qui s'appelle Steven.
Ouais,
Steven. On reste à 3-2 pour le reste du monde.
Question du gars.
Faites comme moi, soutenez la fondation Alzheimer.
J'oublie tout, sérieusement, je me suis fait des détours. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour.
Quel ancien coéquipier de Duga au Girondins,
ouais,
était dans la liste de la Coupe du Monde 2010?
Ah bah oui.
Planus. Bon, ah, il est fort.
3-3. Là, c'est parti vite.
Allez, question flash. Quel joueur français présent dans 4 listes détient le record de matchs joués en Coupe du Monde avec les Bleus? 20 matchs.
Thierry Henry?
Non.
4 listes.
Loris.
Oui, Hugo Lloris. Bonne réponse à Jean-Pierre.
Papa. 3 pour le reste du monde. Incroyable quiz.
Ah, il nous manque ces confs de presse à Hugo.
C'est vrai.
Franchement, on en apprenait.
Son enthousiasme légendaire.
On en apprenait des choses.
Il est dans ta liste.
Ouais, bah, c'est pour ça. Bah, il faudra lui calmer ses ardeurs. Hein, ouais. Si on y va.
Tiens, question rapidité. Citez-moi l'autre joueur de l'histoire des Bleus à avoir participé à 4 éditions.
Thierry Henry.
Oui.
Bah, oui.
Quel jeudi. Bah non,
tu l'as
pas dit.
Tu dit ce que j'ai dit.
Question con.
Ah, question con.
Ouais.
Allez, bonjour Michel.
Alors, roulette.
Ah, c'est sur la question con. Ah, c'est Benoît.
Benoît répond pour tout le monde, sauf pour Jérôme.
J'adore, Benoît.
Allez,
Benoît, t'as intérêt.
Que moi.
Alors, t'as intérêt,
ouais, Benoît. T'as intérêt, grave.
Benoît.
Là, tu as intérêt, Benoît. Si tu as été bon tout à l'heure, sois bon maintenant. Hein.
J'ai intérêt.
Allez, eh ben, question con.
RMC, la question con.
Qu'est-ce que vous êtes con alors?
Ouais. Et il a 5 secondes pour répondre.
Reçoit des menaces de tout le temps.
10 secondes pour répondre, Benoît, attention.
15.
10 secondes.
Et je compte.
Allez,
je compte.
Quel joueur de la liste de 2006 est une équipe de rugby heureuse après une victoire? Mais pas le rugby classique.
8, 7,
6.
Non, non, Trezeguet. Mais
oui, Trezeguet.
C'est vraiment
Trezeguet.
Trezeguet.
Et la victoire.
Tu vois que j'allais passer un bon week-end. Jérôme, j'allais passer un bon week-end.
Et comme dirait Pascal, cucu Jérôme. Cucu Jérôme. Et la victoire de Sylvain qui remporte ce magnifique cadeau. Bravo Sylvain.
Jouer sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore. À découvrir sur muse-europe.com.
Un grand merci à Louis Gerbier, grand merci, merci à Jean-Pierre Papin, Jean-Michel Larquet. Émission de grande qualité à réécouter en podcast. Et tout de
avec
suite,
Alain Marchal.
Génération After spéciale liste de Deschamps. Et oui, la Coupe du Monde arrive dans 28 jours sur RMC.
Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme. Benoît vous l'a dit, merci Jean-Michel, merci Jean-Pierre et merci Louis. On s'est régalé pendant 2 heures et demain, on fera le bilan de la semaine avec l'analyse de la liste qui va tomber dans quelques minutes. Donc, je vous dis à demain. Rotten sans flamme ne s'arrête jamais à partir de 18h. On est de retour. Bisous, à demain, bonne soirée.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.